33, on prend la page 33, on reprend notre cours sur Baba Kama.
Il y a un autre nom très connu.
Baba Kama.
Ok.
Après, monsieur Bismuth, après, s'il vous plaît. À Baba Kama, donc on est Mishnah Perek He, Mishnah Zayin. Cinquième chapitre, c'était Mishnah. Donc page 33. Page 33, donc la Mishnah va nous dire ici quelque chose d'important. C'est que dans notre dans la parasha Mishpatim, quand on parle des dommages des animaux, la Torah là-bas nous dit Shor o Hamor. C'est un terme qui est très fréquent, Shor o Hamor. Ça veut dire un bœuf ou un âne. La question qu'on se pose bien sûr, c'est est-ce que la Torah restreint, les dinims des dommages seulement à ces deux animaux, ou est-ce qu'il faut appliquer ces dinims à tous les animaux? Alors vous allez me répondre, bien sûr qu'il faut l'appliquer à tous les animaux.
Les animaux domestiques.
Tous les animaux, alors justement, on va en parler tout de suite. Echad shor, ve'echad kol bema. Voilà, voilà pourquoi intervient la Mishnah. La Mishnah dit, attention, que ce soit le bœuf ou que ce soit tous les animaux, d'accord, ils ont le même din pour tous les éléments qu'on va dire, qu'on va citer maintenant. Premier élément, c'est une filate à bord. D'accord, une filette à bord.
Non, c'est ça.
Page 33. Au début, c'est la première. Il y en a deux. Donc, premier élément, c'est une filette à bord. Donc, un animal qui tombe dans un puits. Ce qu'on a pu développer.
Ça peut pas être un lion apprivoisé. Hein.
Ce qu'on a pu développer longuement, si, il peut être trébuché. Ce qu'on a pu développer, Baruch HaShem, longuement dans les Mishnayot précédentes. Tomber dans un puits, dans quel cas, le puits des associés, il est responsable, il a creusé Diamot, etc. Tous les détails qu'on a pu voir dans les semaines précédentes. Donc, bien que la Torah nous a cité Shor o Hamor, un taureau ou un âne, c'est la même chose pour tous les animaux. De la même manière, c'est intéressant que la Mishnah nous le dit dans cette Maseret, ou les Afrachat Arsinaï. Vous savez, quand Dieu nous a dit, juste avant de recevoir la Torah, il nous a dit que on n'a pas le droit de s'approcher trois jours avant, on n'a pas le droit de s'approcher du mont Sinaï, ni les animaux, ni les hommes. Là-bas, la Torah employait le terme im behema im ish, ni les animaux, ni les hommes. D'accord? Alors, behema, c'est un animal domestique. La question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui se passe, Chaya, si on avait un animal qui n'est pas domestique, si on l'avait avec nous, et off, les oiseaux. D'accord ? Un oiseau, un coq par exemple, etc. Est-ce qu'on a le droit de l'approcher ? La Torah n'en parle pas. Alors on dit ici, la Mishnah, on dit de la même manière, c'est la même chose. La Prachat Arsinaï, la Torah t'a dit BMA, mais en vérité, ça inclut tous les autres, ça inclut les autres animaux. Alors bien sûr, j'attends la question, dans ce cas-là.
Pourquoi on l'appelle BMA ?
Dans ce cas-là, pourquoi la Torah ? Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on devait me poser ?
Pourquoi
on dit BMA ? Qu'est-ce qu'on aurait dû dire ?
Créature.
Non, dire que créature.
Behemoth.
D'accord.
C'est ce que je te disais dès le départ.
Ou bien Shor o Hamor. Pourquoi tu me dis dans le cas d'un animal qui tombe dans un puits, tu me dis un taureau ou un âne. Ben, toutes les raisons, c'est tous les animaux.
Un chien, n'importe quoi.
Un oiseau qui vole qui est même pas à nous.
D'accord. Alors, de la même manière, les Tashlumé Kefel. D'accord. Tashlumé Kefel, ça veut dire quoi?
Son téléphone.
Ah oui, bon. Tashlumé Kefel. Tashlumé Kefel, vous savez que lorsqu'on a trouvé un animal, donc lorsqu'une personne, Dieu préserve, a volé un animal. Bon. Alors, je sais pas si c'est une connerie qui réveille, qui endort. Ah, d'accord.
J'ai oublié de...
Oui, il faut faire un réveil de son au départ.
Tu te réveilles, là. Système d'alarme.
On voit cette attendue.
C'est vrai.
Alors, j'étais en train d'expliquer. Les Tashlumé Kefel. Donc lorsque Dieu préserve une personne à voler, d'accord, si on a trouvé le vol dans le cerf, s'il a rendu de son propre chef ce qu'il a volé sans qu'on ait besoin de l'attraper chez lui, dans ce cas-là, il rembourse ce qu'il a perdu, il rembourse ce qu'il a volé, et c'est tout. Mais si on a trouvé le vol chez lui, d'accord, mais que l'animal est toujours vivant, qu'est-ce que dit la parasha Mishpatim? Si l'animal est toujours vivant, combien il paye?
Deux fois.
Kefel. Si maintenant l'animal entre temps a été tué ou bien il a vendu, combien il doit repayer sur l'animal? 4 ou 5 fois, selon le type d'animal. Très bien. Arba, Vachamish. Ok. Alors encore une fois, de la même manière, dans la paracha Mishpatim, la Torah qui nous parle de cette histoire d'animal qu'on doit payer en double, elle nous parle de Hamor et de Sé. Elle nous parle d'un âne, et Sé c'est quoi?
Un agneau.
D'accord? La Torah nous parle de ces deux animaux. Alors, t'as dit pareil, les Tashlumé Kefel, c'est la même chose. C'est, la Torah t'a cité ces deux animaux-là, mais en vérité, c'est applicable pour tous les animaux.
Générique.
De la même manière, on va citer encore 3-4 exemples, après on va répondre à la première question qu'on a posée. Vela Shavat Aveda. La Torah nous dit la chose suivante, dans la paracha Kitetsé, elle nous dit, lorsque tu verras le bœuf de ton ennemi ou son âne perdu, tu devras lui rendre. Donc, le bœuf de ton ennemi ou son âne. Encore une fois, bœuf et âne. Alors qu'en vérité, ça devrait être applicable pour tous les cas. Et pour ceux qui viennent au cours du dimanche matin, bon, prochain, on a pu expliquer que c'est valable même pour une voiture. Lorsque je vois la voiture de mon ennemi, il est perdu. D'accord, j'ai l'obligation de m'arrêter et de l'aider. D'accord, alors après, il y a des cas. Si je suis pressé, que je risque de perdre de l'argent.
Attends, tu parles pas d'un objet perdu
c'est la même chose.
À ce moment-là.
C'est la même chose, c'est le même digne.
Tu parles de le dépanner lui physiquement.
Le dépanner, non. Le dépanner, ça veut dire si je peux l'aider à redémarrer sa voiture, je dois l'aider à redémarrer sa voiture.
Oui, mais ça fait partie de ça ou de, d'aider son prochain.
Non, pas du tout. Ça fait partie de qui? Ça fait partie de ça.
D'accord. En Israël, dans les autoroutes, quand on voit des gens dans le bas-côté, on est
oui.
obligé de s'arrêter.
Mais oui. Attention. Bah après, il y a après dans le dans
tu
le métier, après dans le métier. Non. On est obligé. Attention, même si c'est mon ennemi, je voulais m'arrêter.
Surtout si
c'est partout. Alors. Oui, mais il n'y a pas de souffrance de la voiture là.
Comme elle dit la Gmara, la Gmara dans le métier
de ton ami, alors tu le fais pour ton ami.
Voilà, la Gmara dans le métier, elle dit comme ça. Mmh. Elle dit si j'ai devant moi deux personnes qui ont besoin d'aide. Les personnes, les deux, leur taureau il est tombé. Ou leur bœuf il est tombé.
Et ils ont besoin
d'aide pour le décharger et pour le recharger. Et un c'est mon ennemi et l'autre c'est mon ami. Lequel je vais aider en premier?
Ton ennemi donc. C'est Napoléon qui mais après
alors,
ton ami.
Alors,
va
la Gmara a dit, faut aider d'abord
son ennemi.
La Gmara a dit, faut d'abord aider son ennemi. Pourquoi? Parce que c'est plus important de casser son yitzhara. Comme ça, la Gmara a dit. D'accord, donc, voilà, ça va, Taveda.
Si c'est son ami, il comprendra.
De casser son yitzhara ou de casser la gueule à son
yitzhara? Casser son yitzhara. Casser son yitzhara, dit. Ah. Azak. Pour le mérite.
C'est pas pour le mérite, pour la guérison.
Oui, ça fait mieux que tout.
C'est
une première mission.
Nathan Abraham
par Yehudi. Refoua Shelema.
Rova Lavo. Là, au même moment, on va faire la bracha pour manger ce délicieux béni.
Azak. En tout cas, ils ont l'air très bons. Servez-vous. Donc, on a dit la Shabbat Aveda.
Donc, tous ces exemples. C'est des animaux domestiques dans tous ces exemples.
Alors justement, dans tous ces exemples, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que la Torah a cité, non seulement que la Torah a parlé d'animaux domestiques, mais la Torah a cité un nom d'animal précis. Soit elle a dit soit un taureau, un bœuf, soit un...
C'est des animaux domestiques ce qu'elle a cité.
Voilà,
un taureau, un exactement. Bœuf, un âne, un
alors qu'est-ce que nous dit la Torah? La Torah nous dit non. Elle nous dit « Echad shor v'echad kol behema ». Qu'en vérité... Non, justement, ce que j'explique, c'est que ici, tout est applicable. Ça veut dire que tous les animaux sont responsables. C'est la même chose pour tous les animaux. Et justement, la question qu'on se posera après, c'est dans ce cas-là, pourquoi la Torah nous induit en erreur en disant le nom d'un animal qui peut nous faire croire que c'est uniquement un animal domestique. D'accord? Mais, regardez dans les notes, certainement ils vous le disent. 58. Vehat kol behema, c'est-à-dire tous les animaux. Tous les animaux. D'accord? Parce que le piège qu'il y a ici, c'est que behema en hébreu, ça veut dire un animal en général, mais ça veut dire aussi un animal domestique.
Ah,
eh ben oui, c'est ça le problème.
Et Behemoth, Hayot.
Voilà. Non, c'est le problème. C'est
non,
comme,
la bête,
je donne un exemple.
Behemoth, c'est le nasbash.
Oui, ça veut dire que Behema, c'est le terme générique pour les animaux, et c'est aussi le terme détaillé pour un animal domestique.
D'accord.
On a beaucoup de mots comme ça en français, que c'est un mot qui est...
Le bétail.
Comme le bétail. Non, comme
le bétail, c'est l'animal domestique.
Bah oui.
L'animal, comment on dit en français un animal? Ça représente quoi?
Animal. Un être vivant.
Non. C'est tout,
c'est
un être vivant.
Une créature animée.
Bon, donc il n'y a pas de,
ça devient de,
pas de restriction. D'accord.
Bon. Okay. Et, non, par contre, quand tu dis, comment dire, du bétail, c'est animal domestique.
Au vin, bovin.
Je ne connais pas assez fort pour savoir.
Non, je cherche un.
Au vin ou bovin.
Ça m'est déjà arrivé de voir des termes comme ça en français, mais bon, ça ne revient pas.
Peut-être même les basse-cours, c'est du bétail.
Bon, ça me viendra.
Un poulet, c'est de la volaille. Ça, c'est de la volaille.
La volaille.
Bétail. Volaille parce que ça vole.
Regardez, par exemple, c'est comme, regardez,
c'est idiot.
Un exemple qui passe par la tête. Les gens, ils ont un appartement, ils disent, je rentre dans ma maison. D'accord? Dans ma maison.
Pourtant,
attends, oui, alors qu'une maison, c'est pas un appartement. Non, mais c'est vrai. Voilà, c'est un exemple qui vient de passer par la tête. D'accord? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le terme maison, c'est un terme générique pour un endroit où on habite, baït. D'accord? Mais après, quand on rentre plus en détail, ben, il y a une maison, il y a un appartement.
Ouais.
C'est pas la même chose.
J'habite en maison.
D'accord? Oui, j'habite. Non, mais ça se dit, les gens disent, je vais rentrer à la maison.
Si on
alors que dans un appartement, un studio.
Et quel est ton domicile? Quel est ta demeure?
Vous avez raison, mais dans les faits, on voit.
C'est la même racine, c'est le même mot.
Demeure,
c'est
où tu habites?
Domicile, c'est le numéro de ton appartement même. Alors que où tu demeures, c'est l'immeuble tout entier.
L'immeuble tout entier. Bon, très bien. Alors, donc, la même manière. Bonjour. De la même manière, la Torah nous a cité donc un animal particulier, et pourtant, qu'est-ce que nous dit la Mishnah? Elle dit non, c'est applicable pour tous les animaux. Autre exemple que la Mishnah nous dit. D'accord? Autre exemple que la Mishnah nous dit, l'Ifrika. D'accord? L'Ifrika, donc on a deux choses.
Ah, il y a de l'argent.
D'accord? L'Ifrika. Donc l'Ifrika, on a expliqué, ça veut dire aider son animal à décharger, d'accord? Ça vient de le dire, merci beaucoup. Et la Chassima. C'est quoi Chassima? C'est qui Chassima? Chassima en hébreu, ça veut dire boucher. Ça veut dire qu'il y a une interdiction de la Torah, une interdiction extraordinaire. c'est quelque chose qui est expliqué longuement par Maïmonide dans le Sefer Hinoukh, etc., qui dit qu'on n'a pas le droit, on n'a pas le droit de museler la bouche d'un animal qui est en train de labourer lorsqu'il est en train de labourer. C'est-à-dire, par exemple, il est en train de labourer, il boit devant lui de la récolte, et toi, tu vas lui museler sa bouche pour lui dire, attention, tu ne touches pas. Tu aurais dû lui dire, tu n'as pas le droit de le faire. C'est une souffrance énorme, parce que tu lui manges la nourriture devant lui, tu lui dis, tu avances, tu travailles et tu ne manges pas. D'accord, l'otarsom shor bedisho. Eh bien, de la même manière, qu'est-ce qu'a dit la Torah? Tu n'auras pas le droit de museler. Nathan Avraham Bar Yehudi. L'otarsom shor bedisho, tu n'auras pas le droit de museler la bouche d'un shor. Encore une fois, un bœuf. Alors, c'est pas forcément un bœuf. De quel animal on peut se servir pour labourer?
Un cheval.
D'accord? Un chien? Un cheval? D'accord? Un cheval, par exemple. Un âne. C'est des animaux qui peuvent tirer, y a pas de problème. Et pourtant, la Torah t'a dit shor.
Un 4x4.
D'accord? Et là, le Sefer Hinoukh de là explique un enseignement extraordinaire, c'est que même lorsqu'on est en position de force, comme dans ce cas-là, on est en position de force, que bon, c'est moi qui domine le taureau, je n'ai pas le droit d'utiliser ma position de force pour le faire souffrir, pour lui dire « tu mangeras quand je te donner ». Non, il faut le laisser, psychologiquement, c'est très grave de faire ça. Et de là, après, il apprend beaucoup de choses, que par rapport aux hommes, de la même manière, que des fois, on se retrouve à forcer des gens à faire quelque chose qu'ils n'ont pas envie de faire. Enfin, c'est très intéressant. Bédrat Hachem,
il y a l'interdiction de faire du mal aux animaux.
C'est autre chose, ça.
C'est marqué pchat, parce qu'il souffre.
Ça, c'est autre chose.
Quand s'il broute pas pendant qu'il
tire. Ça, c'est autre chose. C'est pas mélangé. C'est une autre interdiction. La kil haïm, de la même manière, la Torah nous interdit de kil haïm, ça veut dire de labourer avec.
De
semer. De labourer, ou de, donc c'est surtout de.
Graines hétérogènes.
De labourer, donc, oui, c'est-à-dire de creuser, quoi. Le tacharoche, écrit. Le tacharoche, Mishar Obachamor Yardav. Ben non, ça veut dire c'est labourer, ça veut dire c'est creuser le sol pour pouvoir mettre après les graines.
Labourer.
Dans l'ordre, si je me trompe pas, je sais pas comment ça se passe aujourd'hui.
Semer, ça, non.
D'accord. Mais normalement, il y a trois étapes. Il y a une première étape dans laquelle on creuse un sillon. D'accord. Deuxième étape, on passe par derrière, on met des graines. Après, une troisième étape, on refait passer l'animal pour retourner la terre. D'accord. Alors, vous me direz comment ça s'appelle en français. Je sais pas, moi, dans ma tête, ça s'appelle labourer en général. Mais bon.
Labourer, semer, hein.
Labourer, semer et relabourer.
Et après, relabourer.
D'accord. Donc là, on parle de labourer. L'animal l'utilise pour labourer, pas pour semer. D'accord. L'animal l'utilise pour labourer. Aujourd'hui, je sais qu'ils ont des techniques, qu'ils font les trois étapes en même temps.
Aujourd'hui, ah oui, il y a des moissonneuses batteuses.
Ouais, ils font tout en même temps. Ça veut dire.
Il y a un truc qui creuse.
Voilà.
Ils
font tout la même. C'est comme, vous savez, ce que ça me rappelle, c'est comme dans les aéroports, vous voyez ce qu'ils utilisent pour nettoyer le sol. Ils ont un truc qui fait tout en même temps. Il enlève la saleté, il nettoie, il
étire, il
ponce. Il
faut Franprix aussi. Hein.
Non, mais c'est vrai, ça veut dire, il va te mouiller le sol, il va te le sécher, il fait tout ce que tu veux. Ouais. Toi, tu passes derrière, t'as un sol sec propre.
Ouais, mais c'est bon, il est encore dessus, mais je sais pas si elle saura s'en servir. Faut lui faire un permis.
Il y a même 500 des
euros, il m'a dit.
Je continue. La kil haïm, donc la Torah nous a parlé de ça, toujours dans la paracha qui était, elle nous a dit le tacharosh beshor ou bachamor yardav. Que kil haïm, l'interdiction de kil haïm, c'est pas seulement pour le chatnez, d'accord, pour la laine et le lin, c'est également pour les animaux qu'on n'a pas le droit de labourer avec un taureau et un âne. Donc la Torah, d'accord, labourer, c'est on n'a pas le droit de les faire travailler ensemble. Ouais. D'accord.
Ah, les couplets sur.
Alors
le
bon. Ça, il y a des méfarchim qui expliquent, notamment le Sefer Hinoukh, il dit que il y en a un qui tire plus fort que l'autre, donc c'est une souffrance. C'est une souffrance pour les deux. D'accord? Et pour celui qui tire fort et pour celui qui n'arrive pas à tirer. Bon, quoi qu'il en soit, en tout cas, c'est interdit. D'accord? C'est interdit. Et l'exemple que la Torah a cité, c'est Shor et Hamor. Dit la Mishnah, Kol Behema. En vérité, c'est tous les animaux qui sont inclus. Et pareil, mais la Shabbat. Dernier exemple pour le Shabbat.
Un grand et un petit, ça veut dire?
Non. Pas un grand petit, c'est-à-dire deux animaux distincts.
Quand on lit la traduction en français, c'est pas clair, hein, parce que de l'accouplement d'espèces hétérogènes. C'est les faire travailler ensemble,
parce que, pourquoi je dis que c'est pour les faire travailler ensemble, parce qu'a priori, sur l'interdiction de, comme il dit, l'accouplement d'espèces différentes, la Torah a dit, Bem Techa, Lotarbia Kilaim. Elle a dit, ton animal, tu ne devrais pas l'accoupler Kilaim, ça veut dire donc de manière hétérogène. Donc la Torah a déjà dit Be'am Techa, là-bas la Torah n'a pas dit Shor ou Hamor, pas de problème. Vous voyez, la Torah a dit Be'am Techa, ton animal. Là, la question se pose parce que à propos de l'interdiction de labourer, la Torah a dit Lo Tacharosh Be'Shor ou Vachamor Yardav. La Torah a cité le nom de deux animaux. Alors qu'est-ce qu'on fait? D'accord. On te dit c'est tous les animaux qui sont inclus. Autre exemple, Vela Shabbat. Le Shabbat. On sait que dans les 10 commandements qui s'est écrit, quand tu n'auras pas de faire aucun travail, toi, ton animal, enfin toi, pardon, ton fils, ta fille, ou BMTECHA, d'accord? Donc dans les premiers, dans les commandements de la Parasha Shemot, dans la Parasha Yitro, c'est écrit ton animal, BMTECHA. Dans les commandements de la Parasha Vaetranan, c'est écrit Shorcha Vachamorcha. D'accord? Ton taureau et ton, enfin ton taureau, ton bœuf et ton âne. On avait fait un cours une fois dans la Parasha Vaetranan, on avait fait un cours sur le Kliyakar. Dans laquelle, ici même, dans ce, l'année dernière, dans lequel on avait expliqué, c'était en juillet, dans lequel on avait expliqué la, toutes les différences qu'il y a entre les premiers et les derniers commandements. Le commandement de la paracha Yitro, le commandement de la paracha Vaetranan. Bon, je ne vais pas revenir dessus, parce que c'est un long commentaire, qui ramène à peu près une dizaine de différences entre les deux commandements, donc les premiers commandements et les derniers commandements, et qui explique comment il y a un élément qui explique toutes ces différences. C'est extraordinaire. Bon, en tout cas, dans le dernier commandement, c'est écrit Shorcha Vachamorcha, ton âne et ton bœuf. Alors qu'est-ce qu'on fait? Vous savez, on avait étudié dans la Tfila, hein, dans le cours sur la Tfila, donc on avait étudié les 13 principes qu'il y a dans la Torah. Ouais. Et c'était quoi? Un des 13 principes, c'était quoi? C'était que quand on a une généralité qui est suivie d'un détail, on doit suivre le détail. Donc là, la Torah a commencé dans le premier commandement par dire BMA, ton animal, si on parle des animaux en général. Mais après, dans la deuxième mention, elle dit Shorcha Vachamorcha. Donc En Biklal et la Mashibifrat, ça veut dire qu'on est obligé de dire que la Torah a fait un gros plan et que c'est seulement ceux-là qui sont concernés. Les taureaux et les ânes, les bœufs et les ânes. Alors comment on fait? La Mishnah te dit non, c'est tous les animaux qui sont concernés. Et donc quand je dis tous les animaux, ça veut dire même les chayav of, c'est-à-dire même les animaux sauvages, les oiseaux, tout est concerné. Alors, Imken, dans ce cas-là, Lama, Nemar, Shor, Ochamor. Dans ce cas-là, pourquoi la Torah nous induit en erreur? Pourquoi la Torah a eu besoin de dire Shor, Ochamor? Et là seulement, chez Diber, Akatu, Behove. Là, c'est une réponse extraordinaire, une réponse que Rashi ramène très souvent dans la Torah. Diber Hakatuv Bov, que la Torah a parlé au présent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Torah a utilisé des notions qui étaient communes à l'époque. C'est-à-dire qu'à l'époque, avec quoi on labourait? Si déjà on voulait labourer avec des animaux, qu'est-ce qu'on aurait utilisé? Deux animaux. À l'époque, quand on parlait des animaux qui devaient se reposer, de quel animaux venait dans la tête des gens? Le taureau et l'âne. À l'époque, quel animal on volait le plus fréquemment? Chamor ou c'est un âne, c'était le taxi de la voiture de l'époque, ou c'est un agneau. C'était les animaux classiques. Ça veut pas dire que c'est les seuls animaux qui sont concernés. Ça veut dire que Diber Hakatu Bov, la Torah a parlé au présent. Ça, c'est quelque chose que Rashi ramène un nombre innombrable de fois dans la Torah. Des fois dans lesquelles la Torah cite un exemple particulier, Rashi te dit non, ne t'arrête pas à cet exemple, Diber Hakatuv Bov, la Torah parle au présent, c'est-à-dire que la Torah cite toujours un exemple contemporain. D'accord? Donc c'est là la réponse à tous les réformés, les libéraux qui nous disent oui, il faut adapter la Torah, vous voyez bien que la Torah elle a un message qui n'est pas contemporain. Rashi lui dit plusieurs fois, déjà à son époque, Rashi lui dit Diber Hakatuv Bov. Première mention de Diber Hakatuv Bov, c'est notre Mishnah. C'est un chidouche. Un chidouche de dire que la Torah te donne un exemple, elle te donne le nom de deux animaux, et toi tu viens, tu dis j'en fais une généralité. D'accord? Diber, Hakatu, Bov. La Mishnah a cité ici, je sais pas, 7 ou 8 exemples, elle aurait pu en citer plus, parce que Rashir en ramène vraiment un nombre innombrable de fois. Enfin, c'est...
Donc sans contradiction là, avec ce que tu nous as dit. Quand il y a un zoom, on prend le détail.
Très bien, pas de question. Justement. Alors, c'est quand, comment, justement,
c'est
là.
Juste le temps qui
c'est là qu'on a besoin des Rachamim. C'est là qu'on a besoin des Rachamim. C'est là qu'on a besoin des Rachamim qui vont nous déterminer et qui vont nous dire.
D'accord. Je sais pas si c'est du Nutella qui est mis dedans.
C'est du chocolat.
Alors, c'est là que les Rachamim vont nous aider à déterminer. Est-ce que. Par exemple, je vous donne un exemple. La Torah nous a interdit de faire brûler le feu pendant Shabbat. D'accord. La Torah a parlé du feu. Aujourd'hui, on sait que c'est pas que le feu. Aujourd'hui, on parle aussi de l'électricité. L'électricité qui est une forme de feu. Bon. On a l'électricité, non. Etc. Alors, quelqu'un qui va te dire, oui, mais c'est pas écrit dans la Torah. Oui ou non? C'est pas écrit dans la Torah. Enfin, il a raison, c'est pas écrit dans la Torah.
C'est pas une forme de feu, c'est pas un vrai feu.
C'est pas du feu. D'accord? C'est pour ça qu'on a besoin des Chachamim. C'est pour ça qu'on a besoin des Chachamim. Les Chachamim qui, eux, vont nous dire, attention, là, la Torah t'a parlé d'un cas particulier, mais elle veut pas te parler que de ce cas particulier. Là, la Torah, en vérité, elle veut t'apprendre une généralité. Seulement, elle a parlé d'un cas précis. Ça, on peut pas le faire tout seul. Parce que, il y a des fois dans la Torah, des fois c'est le contraire. Quand par exemple, c'est comme si je veux dire, la Torah m'a demandé de manger des matzot à Pessah. J'ai dit, non, les matzot c'était à l'époque, aujourd'hui on va faire des matzot haute technologie. Enfin, après on fait ce qu'on veut si on continue comme ça. On dit les matzot c'était à l'époque. C'est
Rashi qui nous précise que c'est...
Ah bah oui.
Sinon on n'a pas le droit d'interpréter par nous-mêmes.
Vous imaginez si aujourd'hui on viendrait, on dit non, les matzot en vérité c'était les habitudes culinaires de l'époque. Ouais, fin de l'époque, aujourd'hui...
Les libéraux, ils font ça.
Bah oui. On peut aller où on veut avec ça.
La mila, c'est ouais, mais pour l'hygiène. Oui, mais dans l'autre sens, il est pareil.
Rachid est un phénomène récent dans l'histoire juive.
Alors,
quand même, donc,
la même question. Ah, oui. A priori, on voit que nous, aujourd'hui, on n'a plus le droit de le dire, cette notion. Dibar Akatou BOV. on a le droit uniquement de se baser sur la Gemara qui l'a dit. Quand Rashi lui-même se base toujours sur un Midrash ou sur une Gemara, parce que c'est très dangereux comme principe. Ça se libère à Katouf B.O.V., c'est très dangereux comme principe.
Il le précise à chaque fois. Sinon, s'il ne le précise pas,
ouais.
C'est qu'il faut voir.
Oui, quand je réfléchis le nom, enfin, j'ai des tas d'exemples qui viennent à l'esprit là. Des cas dans lesquels on, voilà, les matzot, les tefillin, etc. On peut dire que oui, c'était des habitudes de l'époque, mais aujourd'hui ça a changé, il faut moderniser. Alors, continue. On passe maintenant, on commence à aller, on prend encore 2-3 minutes. On commence le sixième chapitre. Voilà, comme ça on a fini le cinquième chapitre, le cinquième bougie de Hanouka, et on commence le sixième chapitre. Akonès sonne la dire. Vénal, Bifané, Akarouka. Ça, c'est un chapitre très intéressant. Là, on va rentrer dans des lignes de dommages qui vont un peu plus nous concerner. On va parler des dommages des animaux, d'un animal que j'ai protégé, mais qui a cassé la barrière, qui a tout sauté, qui a cassé. D'accord? On va parler aussi du feu qui se répand, alors que un incendie qui se répand alors que moi je l'ai bien protégé, etc., etc. D'accord, donc on parlera de beaucoup d'exemples. Par exemple, le cas classique qui me vient, c'est j'ai fait réparer ma voiture, contrôle technique, etc. Et je fais un accident, Dieu préserve, les freins ils lâchent. Eh oui. D'accord, donc vous verrez que tous ces cas-là, c'est des cas qu'on va réussir à trouver la réponse au travers de notre Mishnah. Donc première Mishnah. Akones ton ladir venal befanea karaoui. Donc une personne qui fait rentrer du bétail, l'adire dans un enclos. Donc un enclos, ça veut dire que c'est un endroit qui est
fermé.
Clos, fermé. On est bien d'accord. Venal, Befanea, Karaoui, il a bien fermé. D'accord? Il a bien fermé. Donc la Gemara explique, ça veut dire quoi bien fermé? Ça veut dire que il a fermé par une porte qui tient par un vent, qui tient dans un vent ordinaire. D'accord? Alors c'est intéressant parce que ce chapitre dans la Gemara, je l'ai étudié cette année quand j'étais au séminaire du Beit Lubavitch dans les Alpes, il y avait des dizaines de cours, et ce qu'on étudiait le matin en Gemara, on étudiait ce chapitre-là. Très intéressant comme chapitre. Donc, à connaître, sonne la dire. Donc, cette personne-là, donc, il a fait rentrer l'animal dans l'enclos, il a fermé la porte comme il faut. Comme il faut, ça veut dire que c'est une porte qui tient par un vent standard. VFA, VIZIKA. Bon, maintenant, on ne sait pas ce qui s'est passé. Moi, je suis parti, j'ai fermé, ça tenait bien. VSA, VIZIKA, entre-temps, l'animal est sorti et a endommagé. Comment il est sorti? Comment il a endommagé? D'accord? Je ne sais pas comment c'est passé. En tout cas, il est sorti, il a endommagé.
Il avait les clés.
Alors, c'est quoi le din? Fatour, il est fatour. Pourquoi il est fatour? Il est fatour parce que, comme on a expliqué, moi j'ai bien fermé, c'est pas de ma faute si l'animal est sorti. Maintenant,
une fois.
L'onal, Befana, Karaoui. Si maintenant, il a mal fermé.
Comment on le sait?
C'est-à-dire qu'il a mal fermé, c'est-à-dire qu'il a mis une porte. Il a mis une porte que l'animal peut-être a peur de la traverser, mais il suffit d'un petit vent qui fasse tomber cette porte. Ah oui. Et vous voyez la nuance, ça veut dire que la porte retient l'animal, mais ne retient pas le vent.
D'accord, donc c'est un truc qui est posé.
Voilà, il est posé, l'animal il vient à côté, il a peur. D'accord. Le vent il passe,
ça tombe, voilà. Qu'il faut sortir.
Khayav, dans ce cas-là, Vietsa Vizika, Khayav, il est Khayav. Pourquoi il est Khayav? Parce qu'on considère que c'est comme si qu'il n'a pas mis de porte. D'accord? C'est comme voilà. Si qu'il n'a pas mis de porte. Maintenant, Nifretsa Balaïla, Oshepratsu Alistim. Si maintenant il a bien fermé la porte avec un vent qui tient bien, mais ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'il y a eu Nifretsa Balaïla. Il y a eu une effraction.
Non, les voleurs.
Les gens qui sont d'accord. Rentrés, ils ont laissé la porte.
Il y a eu une effraction, ils ont forcé la porte. Et du coup, eux ils ont forcé la porte, c'est pas pour voler les animaux, c'est pour rentrer dans la maison. Mais du coup, la porte est ouverte. Voilà. Le bétail est sorti. D'accord? Et donc du coup, le bétail est sorti. Il est dans la nature. Oshepratsu alistim. D'accord, donc Nifretsa Balaïla, Oshepratsu alistim.
Ce sont les voleurs.
Donc deux exemples. Soit c'est des voleurs qui l'ont fait, soit ou bien, carrément, il y a eu un vent très fort qui est venu, qui a cassé la porte, mais c'était pendant la nuit. C'est-à-dire que moi, je ne pouvais pas m'attendre. VSA, VIZIKA, et donc l'animal est sorti et il est endommagé. Et moi, je me réveille le matin, tranquillement, je me dis, monsieur, votre animal, la nuit, il a fait un carnage. Patour, il est patour. Otsiu alistim, alistim chayavi. Alors, je finis avec ça, 2 secondes, et vous verrez que Bezrat Hashem, dans les Mishnayot suivantes, on développera en détail et on verra que chaque mot de cette Mishnah est précis.
Non, parce que là, il n'y a rien
de... Là, c'est
logique.
Oui, c'est logique. D'accord.
Depuis le départ.
Alors, Otsiu alistim, si c'est les brigands qui l'ont fait sortir, c'est-à-dire que les brigands, ils ont pris l'animal, ils l'ont fait sortir avec, par exemple, pour charger dessus. Et vous savez, comme d'habitude, ils prennent ce qu'ils veulent prendre, et après,
ils lâchent.
Voilà. Enfin non, l'animal, il a un tag, enfin, il y a son nom dessus, on sait à qui il appartient. Et l'animal, il a fait un carnage. D'accord. Dans ce cas-là, Alistim Chayavim.
Il a peut-être même tué.
D'accord. Alistim Chayavim, les brigands sont Chayavim. Donc vous allez me dire, en théorie, c'est une Mishnah qui est C'est une sociologie, on n'a rien appris là. D'accord ? En Bezrat Hashem, la semaine prochaine, vous verrez qu'on reprendra la Mishnah. Je voulais la commencer aujourd'hui quand même. D'accord ? Vous verrez qu'on reprendra la Mishnah et on verra que chaque détail de cette Mishnah. Hein, je peux vous dire qu'on a passé 3 semaines que sur la première Mishnah.
Ça là ?
Ouais.
T'as passé 3 semaines ? Non,
on a déjà vu. Pour la Gemara.
On a déjà vu une Mishnah comme oui, ça. Bah oui, la porte.
Vous l'avez pas compris.
Qui était, d'accord ? Non, l'histoire du trou.
Alors, vous verrez que Bezrat Hashem, on développera la semaine prochaine. D'accord ? Chaque mot de cette Mishnah est précis. Et chaque cas nous apprend quelque chose. Voilà. Mais je rattache la semaine prochaine. Bon, je,
bon, là, une question bête, là, quand même.
Relisez-la.
Relisez-la. Cherchez les problèmes.
À chaque fois qu'on dit
trois semaines, on n'a pas
su. Il est pas tour.
Oui.
Il y a quand même des gens qui ont été lésés, qui ont perdu, qui un autre animal, qui,